Serge Pogam, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS et l'auteur de très nombreux ouvrages et articles sur le sujet de la pauvreté, de la précarité et de la solidarité. Et vous avez publié notamment récemment, c'est pour ça que nous avons souhaité nous entretenir avec vous, un ouvrage collectif qui s'intitule « Repenser la solidarité » paru aux Presses universitaires de France en 2007. Et tout récemment, un livre toujours au PUF qui s'intitule « Le lien social » dans la collection « Que sais-je » dans lequel vous présentez une réflexion théorique sur la notion de lien social. Donc ce que nous voudrions faire aujourd'hui avec vous, c'est interroger l'importance des notions de solidarité et de lien social et de pauvreté dans les débats actuels et les transformations en cours du système de protection sociale. Peut-être faut-il partir d'abord de votre réflexion sur l'importance de la notion de solidarité dans la réflexion sociologique depuis la naissance de cette discipline, en quelque sorte depuis les travaux de Durkheim qui sont fondateurs sur la question. Donc, quelle est pour vous la signification de cette notion et son importance du point de vue de la réflexion du sociologue sur la société depuis la fin du XIXe siècle?
Oui, on pourrait dire que la solidarité, c'est une notion, je dirais, essentielle dans l'interrogation sociologique depuis Durkheim, mais aussi depuis les premiers sociologues, ou en tout cas ceux qui ont eu une réflexion d'ensemble sur la société moderne. Et les premiers sociologues distinguaient très clairement les fondements de la société moderne des formes plus traditionnelles, des sociétés plus anciennes, organisées sur une autre forme de solidarité. Et l'avantage de la perspective durkheimienne, c'est justement de montrer que la solidarité se maintient dans les sociétés modernes, alors même que les individus deviennent de plus en plus indépendants les uns des autres. Et ce qui est tout à fait important, c'est-à-dire que cette indépendance, cet individualisme qui se développe, il repose en réalité sur le fait que, en dépit de leur plus grande autonomie, les individus sont complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a tendance à retenir que les individus sont de plus en plus libres de leurs actes, de leurs mouvements, de leurs pensées, ce qui est l'acquis finalement de la modernité, mais en même temps, ils sont complémentaires dans le fonctionnement de ce tout social qu'est la société. Et de là, Durkheim s'interroge sur la façon de redonner une pleine conscience aux individus qui composent cette société, qu'ils sont finalement, en dépit de ce qu'on a l'impression qu'ils sont, de plus en plus complémentaires les uns des autres, interdépendants, et qu'il est nécessaire de renforcer donc ce lien social, en tout cas de faire en sorte qu'il soit plus visible, qu'il soit plus intégré dans le fonctionnement social. Et de là, donc, on peut penser que la thèse de Durkheim a préparé la doctrine du solidarisme, par exemple, puisque, vous savez, Léon Bourgeois a élaboré son programme solidariste quelques années, trois années plus tard que la soutenance de la thèse de Durkheim.
Donc, d'une certaine façon, ces théories de la solidarité ont été à l'origine d'une réflexion sur la mise en place d'institutions, de dispositifs de protection qui aident à la production de la cohésion sociale. Donc vous faites un lien entre la pensée de Durkheim, sa traduction intellectuelle et politique dans le solidarisme, et ce qui va se passer au XXe siècle avec la mise en place de l'État-providence.
Oui, parce que la mise en place d'un système de protection généralisé qui découle de la doctrine du solidarisme a conduit les individus, finalement, à pouvoir compter davantage sur un système généralisé de protection, un système d'État-providence, qu'on appelle l'État-providence, un système d'assurance sociale, qui va en quelque sorte leur permettre d'acquérir plus d'autonomie par rapport à leurs attaches traditionnelles, par rapport à la famille, par rapport au cercle plus étroit, par rapport aux communautés plus restreintes. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir en quelque sorte s'affranchir, au moins en partie, de ce qui faisait finalement leurs attaches, de ce qu'ils étaient en quelque sorte comme membres intégrés de petites communautés. Et cela a conduit finalement tout au long du XXe siècle à penser autrement la relation entre l'individu et la société.
Vous insistez dans votre réflexion sur la solidarité et le lien social sur la double dimension des dispositifs mis en place qui visent à la fois la protection des individus et la reconnaissance. Vous placez ces deux concepts comme centraux dans l'effort collectif de solidarité vis-à-vis des individus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux notions qui vous semblent importantes pour comprendre le lien social ?
Oui. Pour définir le lien social, effectivement, on peut prendre en compte ce fondement essentiel qu'est la protection, c'est-à-dire de pouvoir se dire finalement, je peux compter sur qui ? Tout individu se pose cette question, je peux compter sur qui ? Je peux compter sur un système de protection sociale généralisé, mais si celui-ci s'écroule, je peux compter sur qui ? Sur mes proches, certes, sur ma famille, sur mes collègues de travail, etc. Je peux compter sur qui ? Mais ce n'est pas la seule dimension du lien social. L'autre dimension, tout aussi fondamentale, c'est de savoir, est-ce que je compte pour quelqu'un ? C'est-à-dire, comment je construis mon identité de façon à ce que l'on puisse me donner une certaine valeur dans la société sur laquelle je peux aussi compter pour me définir socialement comme un individu membre de cet ensemble social. Et donc c'est là que se pose la question de l'utilité, que possède d'ailleurs Durkheim aussi. L'individu doit prendre conscience qu'il est un élément d'un organe plus général. Tout le processus conduit finalement à donner à l'individu le sentiment qu'il est reconnu par autrui, c'est-à-dire par le regard que portent les autres sur lui. Et donc ça, c'est une quête infinie, en quelque sorte, à laquelle nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, conduits de pratiquer au quotidien. C'est-à-dire que nous sommes obligés de penser toujours à notre relation à autrui, c'est-à-dire à la façon dont nous pouvons être utiles dans la relation avec les autres membres de la société.
Et ça conduit aussi donc à s'interroger sur les formes de la pauvreté contemporaine, puisque dans vos travaux, vous avez montré que la pauvreté, c'était évidemment un grand dénuement, une précarité, une absence de moyens pour s'en sortir, pour vivre dignement. Mais il y a aussi une très grande souffrance liée au fait d'un sentiment d'une non-utilité sociale. Et donc la souffrance et la non-reconnaissance, le mépris social, est à une dimension importante du sentiment de la pauvreté.
Dans le processus de disqualification sociale que j'ai décrit et analysé dans mes travaux, on peut effectivement souligner la double dimension de la perte d'un certain nombre de protections, d'une certaine insécurité sociale, du fait de ne plus pouvoir compter sur le fait d'avoir un emploi, par exemple, un emploi stable, sur le fait d'avoir rompu avec un certain nombre de membres de sa famille, ne plus pouvoir compter sur une protection sociale universelle. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire en même temps, une personne en situation de pauvreté voit sa position menacée dans la société en général, et on voit en tout cas que le statut qui le caractérise est un statut qui correspond finalement à la dernière strate de la société, c'est-à-dire qu'il est désigné socialement comme appartenant à un ensemble social que d'aucuns considèrent comme extrêmement dévalorisant, et peut-être même que certains considèrent qu'il caractériserait une certaine incompétence ou une certaine irresponsabilité sociale, ou parfois même la paresse. Donc c'est cette double dimension de manquer d'appui, d'être vulnérable du point de vue donc de la protection que l'on peut avoir, mais aussi d'être sous un regard assez méprisant, remettant en relief son inutilité. Et c'est ça qui caractérise le processus de disqualification sociale.
Vous avez commencé vos travaux à la fin des années 80 avec des premières enquêtes sur ce phénomène de la pauvreté. Est-ce que vous avez observé depuis les années 80 une évolution sur les expériences de la pauvreté et sur la conception et la représentation qu'on se fait de la pauvreté dans la société?
Oui, alors ça c'est une question importante parce que je crois qu'aujourd'hui, ma position par rapport à la façon dont je constate et analyse la situation et le regard que porte la société française sur ses pauvres n'est plus du tout le même que celui que je pouvais prendre en compte quand j'étudiais la mise en place du revenu minimum d'insertion il y a une vingtaine d'années. Il y a là, je trouve, une évolution considérable du regard. Au moment du vote de la loi sur le RMI, il y avait cette idée partagée que la société française avait une dette à l'égard des plus défavorisés. C'était la dette de la nation. l'égard des plus pauvres. Et il y avait un peu le sentiment que cette... D'ailleurs, dans l'idée de dette, c'était bien l'idée qu'il y avait des injustices flagrantes et qu'il fallait les corriger. Et que parce qu'on n'avait pas réussi à permettre la mise en place d'un système universel de protection sociale, il fallait bien qu'on invente quelque chose qui serait de la solidarité nationale pour justement venir en aide à toutes ces personnes qui se retrouvaient, du fait du chômage de longue durée, dans des situations d'extrême pauvreté. Donc c'était l'idée majeure, et c'est un grand défi, grande ambition du RMI. Et aujourd'hui, on a le sentiment que cette idée de l'explication de la pauvreté par l'injustice a considérablement régressé dans notre pays, au profit d'une autre explication qui serait l'explication par le fait de ne pas être suffisamment courageux, de ne pas être suffisamment responsable de soi, de ne pas être assez mobilisé dans la recherche d'emploi. En quelque sorte, il y aurait l'idée que les pauvres seraient non plus des victimes du système, mais en quelque sorte des victimes d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leur propre incompétence et de leur propre irresponsabilité. Et on le voit en tout cas dans toutes les enquêtes, c'est pas simplement spécifique à la France d'ailleurs, dans toutes les enquêtes européennes portant sur justement la perception de la pauvreté et de l'exclusion en Europe, on a pu constater une progression de l'explication de la pauvreté par la paresse.
D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on en revient à des explications ou des représentations qui avaient cours au 19e siècle, puisque avant justement ce regard solidariste, ce qui prévalait, c'était la vision libérale qui avait tendance un peu à moraliser ou à culpabiliser le pauvre comme étant responsable de son propre sort. Il y aurait une sorte de retour un peu de ce type
oui,
de vision.
On aurait presque l'impression que le solidarisme n'est plus présent dans les esprits. Alors c'est un peu excessif de dire ça parce que les Français attachent en même temps de l'importance à leur système de protection sociale. Mais c'est comme si, à l'égard des plus défavorisés, ce système-là, finalement, on pouvait très bien s'en passer. Il fallait en tout cas inventer quelque chose de plus efficace pour éviter que ces personnes les plus défavorisées profitent en quelque sorte. Parce que derrière, il y a bien cette idée qu'il y a des profiteurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment de la campagne présidentielle, il y a eu tout un courant dans la presse qui consistait à mettre en évidence les profiteurs de l'assistance. Il y a eu des reportages, y compris à la télé, de cette question-là. Alors que quand on regarde très très bien le processus, on s'aperçoit que les personnes qui sont au RMI sont dans un processus qui les a conduits à avoir de moins en moins confiance en elles-mêmes, de moins en moins avoir de capacité à rechercher un emploi, parce que leur santé aussi s'est dégradée au fil du temps, c'est-à-dire qu'il y a une détresse psychologique qu'il faut prendre en compte dans le processus du chômage de longue durée et de relations avec l'assistance. Et donc on a tendance à oublier tout cela et dire que parce qu'ils ne font plus suffisamment d'efforts, ou du moins on sous-entend qu'ils n'en font plus, c'est tout simplement parce qu'ils sont stratégiques, c'est-à-dire qu'ils profitent du système. Et cela conduit, me semble-t-il, à une vision qui n'est pas juste du processus lui-même de disqualification sociale. Parce que l'attitude qui est la leur, et qui est une attitude que l'on peut comprendre sociologiquement, est toujours perçue sous un angle qui est tout à fait simplifié et qui occulte le processus lui-même de création de l'exclusion.
Ces discours sur l'évolution des visions qu'on peut avoir de la pauvreté ou des bénéficiaires du RMI accompagnent des critiques du modèle d'État-providence en France depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord quelles sont les caractéristiques de l'État-providence français, de ce modèle, et comment il se distingue d'autres expériences à l'étranger, notamment ?
Oui, alors c'est vrai que quand on présente le système de protection sociale, il faut, c'est assez long parce qu'il faut d'abord présenter le pilier de l'assurance et celui de l'assistance. Donc il y a deux piliers. Pendant de nombreuses années, on a pensé que, pendant la période des Trente Glorieuses, on a pensé que l'on pouvait peu à peu réduire le pilier de l'assistance. Et c'était d'ailleurs le plan des fondateurs du système de protection sociale de faire en sorte que le pilier de l'assistance soit le plus résiduel possible. Aucun système n'a complètement éliminé l'assistance, mais l'idée c'était que d'avoir un système le plus universel fondé sur des assurances sociales les plus larges possibles. Or, ce que l'on constate depuis un quart de siècle, c'est une augmentation, au contraire, de ce pilier de l'assistance. Et le développement de mesures dans le cadre de l'action sociale qui sont extrêmement catégorielles. C'est-à-dire qu'on va définir des publics cibles et, en fonction d'une logique de statut, on va hiérarchiser ces publics. On va créer en quelque sorte des catégories que l'on considère certaines plus légitimes que d'autres au regard de la redistribution. Donc on a un ensemble extrêmement catégoriel de mesures pour venir en aide aux plus défavorisés. Cela est le vrai dans le domaine de l'action sociale, mais alors on peut étendre la question du logement, la question de l'emploi, la question de la santé. Il y a effectivement une multiplicité de dispositifs aujourd'hui qui sont effectivement un peu complexes quand on les prend les uns après les autres. Et on se dit, il manque d'une vision globale de traitement de la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle, moi je regarde comment à l'étranger on pense l'ensemble du traitement de la pauvreté. Et c'est vrai que quand je regarde en particulier le fonctionnement des pays scandinaves, je remarque qu'un certain nombre de mesures que l'on prend chez nous pour lutter contre la pauvreté ne sont pas prises en compte dans les autres pays, dans d'autres pays en tout cas, en particulier dans ces pays scandinaves, parce que le système de protection sociale est davantage fondé sur une redistribution plus importante à partir donc du premier pilier, celui de l'assurance, celui de la protection sociale la plus universelle possible. C'est-à-dire qu'en gros, on fait en sorte d'intervenir en amont de la pauvreté pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de personnes à prendre en charge au titre de l'assistance. En France, on a plutôt tendance à avoir privilégié, on a finalement peu à peu privilégié l'intervention au titre de la solidarité en direction donc de ces pauvres assistés, qui sont effectivement nombreux si on prend en compte l'ensemble des minima sociaux.
Donc on a effectivement beaucoup parlé récemment du fameux modèle danois dont on parlait, qui est loué donc à la fois pour son caractère universaliste et pour ses performances économique et sociale. Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui peuvent être transférés, qui peuvent servir d'inspiration dans les réformes en cours en France, ou bien l'expérience est-elle à ce point singulière qu'il serait tout à fait vain de songer s'en inspirer?
Je pense qu'on peut de toute façon s'en inspirer. De là à dire que ce modèle est transférable, c'est probablement faux de penser qu'on puisse le transférer. Mais on peut, je pense, s'en inspirer. En tout cas, se dire que si l'on veut véritablement lutter contre la pauvreté, il faut à un moment donné penser en termes de politique globale, de politique de prévention, dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine du logement, penser à la location logement. Les jeunes Danois peuvent accéder à l'allocation logement dès qu'ils deviennent majeurs, et donc ils peuvent ainsi prendre davantage de distance par rapport à leur famille et faire des études dans de meilleures conditions. Voilà un exemple. Le fait d'avoir une protection sociale universelle, d'avoir un système éducatif et de formation de grande qualité, tout cela conduit finalement à gérer en amont les questions que nous traitons de façon curative à partir du constat qu'il y a de nombreuses personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi sans véritable formation, sans véritable qualification reconnue pour trouver un emploi, tout en cumulant des problèmes de logement, des problèmes de santé. Donc oui, je pense que l'on peut avoir en tout cas en tête que ce modèle-là produit un certain nombre de signes de bien-être pour la société dans son ensemble. Et de ce fait, ça peut être un horizon qu'il ne faut pas oublier. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je trouve que mettre en place un système comme le revenu de solidarité active, c'est un choix que l'on doit interpréter au regard, justement, du fonctionnement social d'ensemble. Et réduire la solidarité à la mise en place d'un tel dispositif me semble là, en tout cas, peut-être restrictif. C'est-à-dire, je trouve qu'on aurait très bien pu avoir aussi un programme plus ambitieux de lutte contre la pauvreté.
Alors justement, le revenu de solidarité active est devenu l'objet principal d'attention depuis 2007 dans le combat contre la pauvreté. Il est parfois présenté comme l'outil qui permettrait de mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que le revenu de solidarité active change dans le système de protection sociale? Quel élément de philosophie sociale nouveau introduit-il? Et d'après vous, est-ce un outil qui aura une efficacité réelle ou non dans la lutte contre la pauvreté?
Bon, tout d'abord, je crois qu'il est vraiment important d'avoir à l'esprit que le fait d'être pauvre dans une société, c'est finalement d'être reconnu par la société en situation de pauvreté. C'est-à-dire qu'il est illusoire de dire que c'est par un système de revenus de solidarité active ou un autre système de ce type que l'on va réduire et éliminer la pauvreté, éradiquer la pauvreté dans notre pays. En fait, la question est de savoir comment on va pouvoir faire progresser par un système de cumul d'une activité et d'un revenu minimum une population, donc c'est en quelque sorte déplacer le curseur pour une frange de la population. Alors là, ça soulève d'autres questions en même temps. Si on dit que ça vaut le coup de le faire, donc on peut très bien accepter cette idée et réfléchir à partir de ça, on peut se demander en même temps, est-ce que cela ne va pas créer d'autres difficultés d'autres difficultés vraiment tout à fait spécifiques. On peut s'interroger notamment sur le fait que, alors qu'il y avait une catégorie, le RMI, qui était considéré comme la dernière strate de la société, on va créer une catégorie un peu plus un peu plus haute dans la hiérarchie sociale, donc une strate en quelque sorte RMI un peu plus digne, c'est-à-dire ceux qui font l'effort de travailler, et les autres, ce qui serait en dessous, donc qui seraient donc bénéficiaires de la solidarité passive en quelque sorte. Donc ça pose vraiment cette question, encore une fois, de la hiérarchie sociale que l'on est en train d'inventer à travers un tel dispositif. Donc, quid de ceux qui ne bénéficieront plus ou bénéficieront moins de l'attention qui leur a été portée dans le cadre du RMI à travers les dispositifs d'insertion qui s'adressaient à tous? Donc, est-ce qu'on continue à faire de l'insertion pour les autres sous d'autres formes? Voilà, c'est des questions en tout cas que l'on est en droit de se poser aujourd'hui. Et puis, en même temps, il y a aussi cette question du frottement de ces allocataires qui vont cumuler activités et revenus avec tout le système du marché de l'emploi qui se développe, c'est-à-dire, et qui est un système de marché de l'emploi très précaire. Donc, est-ce que cela ne va pas contribuer, dans une certaine mesure, à précariser encore davantage toute une frange de salariés qui se trouvaient justement sur un marché de l'emploi offrant finalement des petits revenus? Est-ce que ça ne va pas les maintenir dans un précariat, dans un piège qui est celui d'être finalement toujours en situation de précarité, même si c'est un peu mieux que le RMI, ça reste dans une zone globale de précarité et qui peut-être même être encore davantage institutionnalisée comme allant de soi. Donc tout cela pose des problèmes qui, vous le voyez, sont aussi des problèmes d'ordre éthique.
Et est-ce que la notion d'incitation, qui est au cœur du dispositif de revenu de solidarité active, vous paraît suffisante pour rendre compte du maintien de populations importantes, nombreuses, hors du travail? Est-ce que l'idée que les individus n'auraient pas d'intérêt à prendre un emploi correspond véritablement aux problèmes qui se posent concrètement aux personnes sur lesquelles vous avez enquêté, qui sont dans des situations de dénuement, de pauvreté et loin de reprendre un emploi.
La question, à mon sens, est plutôt, devrait être posée autrement. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de chômeurs qui sont découragés, à qui on ne reconnaît plus la possibilité de travailler, que l'on juge inutile. La question, c'est de savoir comment peut-on faire pour que ces chômeurs reprennent confiance en eux-mêmes. Cela peut se faire par tout aussi bien par un programme très actif de formation, d'accompagnement dans l'emploi, comme cela peut se faire d'ailleurs dans les pays scandinaves. Au Danemark, il y a un système très soutenu d'accompagnement jusque l'emploi, avec une volonté de lutter aussi contre les formes dégradées d'emploi, c'est-à-dire que les bad jobs, ce que vraiment personne ne veut, on va les combattre. On va dire qu'il y a un autre avenir pour les pauvres que de rentrer dans ces emplois dévalorisants. Et on va donc faire en sorte de préparer davantage l'ensemble de la main-d'œuvre, y compris donc ces chômeurs de longue durée, qui sont par ailleurs en nombre beaucoup plus limité dans ces pays du fait du système de protection sociale générale. Mais je crois que c'est ça la solution. Donc plutôt que de dire on va faire en sorte que ceux qui veulent travailler pourront travailler davantage parce qu'on va les aider, je crois que la question est plutôt de savoir comment faire en sorte de faire progresser l'ensemble, d'offrir des opportunités d'ensemble. Et je crois qu'on a un peu évacué trop vite les dispositifs d'insertion qui ont déjà été évalués au cours des 20 dernières années dans le cadre du RMI. On a tendance à dire que globalement ça ne marche pas. Donc il faut peut-être dire qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné pendant toute cette période, et peut-être aussi on pourrait s'en inspirer davantage pour mieux réussir ces dispositifs d'insertion. Il ne s'agit pas de dire qu'aucune réforme n'est possible, il s'agit peut-être de dire qu'une autre réforme est possible que celle du RSA.
Merci Serge Progam de nous avoir accordé cet entretien.